carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La Maison du Pastel, avec tous les honneurs que le mot maison sous-entend, est à la fois un lieu de mémoire, un laboratoire et un lieu à l'écoute des artistes, un lieu dont les origines remontent à 1720. On y vend, on y fabrique des pastels, uniques au monde, qui servent à la création artistique depuis 3 siècles. Ici, tout n'est qu'une symphonie de couleurs, le procédé de fabrication inégalé et gardé secret depuis plus de 2 siècles. Il est le fruit exceptionnel de plusieurs rencontres et d'une énergie familiale toujours renouvelée. C'est à la découverte de cette histoire, de cette filiation familiale et artistique, une belle histoire de transmission, que je vous convie dans cette émission de Carrefour des Arts, en compagnie d'Isabelle Rocher, petite cousine et descendante d'Henri Rocher, créateur des pastels Rocher, reconnu internationalement pour leur qualité. Isabelle Rocher, bonjour.
Bonjour.
Isabelle Rocher, merci de nous accueillir à la Maison du Pastel, à Paris.
Merci à vous.
Nous sommes également en compagnie du sculpteur Pierre-Édouard, qui pratique le pastel, mais aujourd'hui il est plus accaparé par la sculpture, disons. Bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour.
Isabelle Rocher, pour commencer, qu'est-ce qu'un bâton de pastel ?
Alors un bâton de pastel, c'est, j'ai envie de dire, essentiellement du pigment en poudre, auquel on rajoute un liant pour permettre à cette poudre de tenir sous la forme d'un bâtonnet. Et en dehors des pigments, c'est aussi des charges qui permettent, donc des charges blanches, typiquement des argiles, qui permettent de dégrader cette couleur pour avoir des tons différents d'une même nuance.
On les fabrique comme ça depuis longtemps, on connaît l'origine, on a des traités sur l'origine, les procédés de fabrication.
Oui, alors l'origine de la fabrication du pastel, en fait les premiers pastels ils ont été fabriqués dès le XVIIe siècle, mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècle et les grands portraitistes du XVIIIe que l'art du pastel se développe. Donc en fait l'origine de la maison qui est en 1720 tombe vraiment à cette époque de grand développement du pastel.
Et qu'est-ce qui explique le procédé ou la demande des artistes, on sait ça ? C'est la technique qui a développé l'art du pastel ou c'est...
J'ai envie de dire que, en fait, c'est le développement du portrait, parce que le pastel est idéal, en fait, comme technique pour le portrait, parce que c'est un matériau qui rend très très bien la granulosité de la peau, voilà. Et en fait, à partir du XVIIIe siècle, et peut-être que c'est ça qui a aidé, parce que avant ça, les artistes fabriquaient eux-mêmes leurs couleurs. À partir du début du XVIIIe, il y a eu de plus en plus de fabricants qui ont justement permis aux artistes de pratiquer plus et de passer moins de temps à fabriquer leurs propres matériaux, en fait.
Aujourd'hui, donc chaque fabricant de pastel avait un peu son secret de fabrication d'une région à l'autre.
Voilà, en fait, ce qui fait, j'ai envie de dire, la base pour tous les fabricants est la même, c'est-à-dire c'est des pigments en poudre. Et après, chaque artisan va avoir son liant particulier qui va rendre une texture de pastel différente et qui fait une qualité de pastel différente. Donc c'est là que réside la grosse différence entre les différents fabricants.
Est-ce qu'il y avait déjà une tradition française, c'est-à-dire un savoir-faire en France qui s'était déjà développé sur le pastel ?
Personnellement, je ne connais pas trop. J'ai l'impression que la qualité, tout du moins, des pastels français, c'est ce que j'ai lu dans les historiques écrits par mes cousines, qu'effectivement, les pastels français étaient reconnus pour leur qualité particulière. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait d'autres fabricants ailleurs ? Ça, je ne sais pas.
Alors, pour faire un grand bond dans le temps, aujourd'hui, vous êtes combien à fabriquer ? Est-ce qu'il existe d'autres entreprises de fabrication du pastel sec ? Vous allez nous expliquer aussi ce que c'est, ce mot supplémentaire. Aujourd'hui, en France, combien vous êtes ?
Alors, on est 2 artisans.
Il faut peut-être préciser avant que le pastel, c'est du pastel sec.
Quelques précisions sur ces mots.
Pour moi, le véritable pastel, c'est le pastel sec. Le pastel gras, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, mais la noblesse du pastel réside pour moi dans le pastel sec, qui est cette poudre qui est quasiment à l'état pur et qui fait que la couleur qu'on retrouve sur le tableau est de la couleur pure, ce qui n'est pas le cas avec les pastels gras, puisqu'il y a une cire qui vient se mêler au pigment et qui rend le matériau différent, en fait.
Aussi.
Voilà.
Non ? Je me trompe peut-être.
Aussi, oui. Le rendu n'a rien à voir.
Le pastel gras, c'est très récent. Toute la tradition du pastel, c'est toujours le pastel sec. C'est-à-dire, c'est le pigment, c'est l'idée d'avoir le pigment à l'état pur, quoi. La lumière sur le pastel sec pénètre le pastel, alors que sur un pastel gras ou une peinture à l'huile, elle rebondit, comme un ballon. Elle tape, elle rebondit. Là, elle rentre, comme la fresque.
Ça donne un aspect un peu sensuel, j'allais
tout
dire.
Tout à fait, oui. Un aspect aéré, poudreux, qu'on n'a pas dans les autres techniques et qui aide effectivement à la luminosité et à l'éclat du pastel. Quand on voit les tableaux de Quentin de la Tour, ils sont de la même fraîcheur qu'il y a 300 ans. C'est assez impressionnant.
En préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait aussi une controverse. Est-ce que ça se conservait bien ? Est-ce que... Apparemment, le pastel se conserve. Le pastel,
en fait, ce qui ne se conserve pas bien, c'est le papier. C'est ça le souci du pastel. Parce que la poudre colorée, si on la choisit bien, c'est-à-dire si on prend des couleurs qui résistent dans le temps, qui ne vont pas s'altérer à la lumière, ça peut durer des centaines, des siècles, si on en prend soin.
Mais comme c'est fragile, en général, on en prend soin et du coup, il ne s'abîme pas.
C'est vrai.
Parce qu'on ne les bouge pas, les pastels, on les bouge très peu. Ouais. Les pastels du 18e ont très peu voyagé. Ils ont été faits, ils ont été posés dans un lieu et ils ne bougent plus. Donc c'est pour ça qu'ils se conservent. Parce que s'ils bougent, s'il y a des chocs, la poudre peut tomber. Puisqu'ils n'étaient pas fixés du tout. À l'époque, on ne fixait pas.
Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez deux.
On est deux artisans à les fabriquer, encore
en France, à la main.
En France, sachant qu'il y a d'autres fabricants comme les pastels Sennelier qui sont fabriqués de manière plus industrielle. Et puis à l'étranger, c'est pareil, il y a quelques artisans aux États-Unis. Il y en a un qui est en Angleterre, il y en a un autre, je crois, en Australie. Enfin, il y a quelques fabricants, je pense qu'au travers dans le monde, ça se compte, il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine en tout, oui. Donc artisan et industriel.
Pierre-Édouard, en tant qu'artiste et utilisateur du pastel, qu'est-ce qui se passe sous vos doigts quand vous dessinez avec ces pastels ?
Le pastel, ça a été intéressant pour moi parce que ça reste quand même du dessin. C'est-à-dire c'est de la peinture, mais ça reste du dessin. Donc pour moi, c'était une manière de pouvoir dessiner avec le ton. Les dessinateurs sont toujours très tentés par le pastel. C'est quand même une technique de dessinateur. Et pour moi, ça alliait les deux, donc c'était intéressant.
Comment situez-vous, tous les deux, l'art du pastel ? On en a un petit peu parlé, mais parfois c'est associé à un art d'amateur. On sait aussi que les plus grands maîtres s'y sont plus qu'essayés. Alors, comment est-ce que vous situez ça, vous qui êtes justement au cœur de tout ça ?
Moi, je crois que cette histoire d'amateur, c'est lié à un tout à fait faux problème. C'est qu'il y a beaucoup de... Même au 18e, je pense qu'il y a beaucoup de dames nobles qui en ont fait dans leur salon, donc on a gardé cette idée que ça pouvait... Et puis en plus, ça ne salissait pas comme la peinture à l'huile, donc on pouvait faire ça chez soi. Donc il y a une idée qui est restée là, mais en réalité, c'est totalement faux. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un art d'amateur. C'est un art très compliqué, en réalité. Extrêmement compliqué, qui demande une maîtrise technique. Pour faire vivre ce matériau, c'est très complexe. Donc je pense que c'est complètement faux. Et moi, mon impression, c'est que le pastel, au cours du temps, il a des renaissances et puis il disparaît. Et puis il revient, puis il redisparaît. C'est pas quelque chose qui est tout le temps là. Vous avez des points forts, vous avez le 18e, tout ça. Puis tout d'un coup, plus personne ne fait de pastel. Et puis tout d'un coup, ça ressort. Avec Degas, ça ressort. Après Degas, il y a plein de gens qui en font... C'est comme ça. J'ai l'impression que ça va, ça vient, le pastel.
De mon côté, en fait, c'est un art que je ne connaissais pas avant de reprendre la maison. En fait, j'ai découvert le pastel quand j'ai commencé à entendre parler mes parents et mes grand-tantes du pastel. Et depuis que j'ai découvert ce matériau et les œuvres réalisées avec ce matériau, c'est devenu une des techniques que je préfère. C'est-à-dire, je trouve que les œuvres réalisées au pastel sont magnifiques. Qu'il y a une vibration, une sensualité, un esprit... qui vraiment en fait quelque chose, une technique magnifique.
Vous êtes la petite cousine des sœurs d'Henri Rocher.
Voilà.
Qui, justement, travailla au développement de la maison du pastel.
Voilà.
Où nous sommes, sur la base d'un secret de fabrication qu'il tenait de son père, mais avec qui il a aussi travaillé.
Oui.
Dans la famille, on a une filiation aussi du côté de la chimie, parce que vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, que vous aviez travaillé du côté de...
Dans le pétrole.
Dans le pétrole.
Oui. Hein.
Mais vos ancêtres étaient aussi un chimiste, médecin, donc très proche des sciences. Et avec ces pigments, là, on est effectivement dans la chimie.
Oui, on est presque dans l'alchimie, en fait. Henri Rocher, le premier Henri Rocher, parce que le père et le fils s'appelaient tous les deux Henri. Le premier, donc, qui a repris la maison, il était pharmacien. Donc, il était chimiste et pharmacien, c'était son métier. Il avait une pharmacie dans le quartier, d'ailleurs. Et sa rencontre avec Louis Pasteur, alors j'ai pas bien compris s'il avait été un collaborateur ou un élève de Pasteur, mais c'est Pasteur qui l'a introduit au monde du pastel, parce que Pasteur pratiquait le pastel. Et donc c'est comme ça qu'Henri Rocher est rentré dans l'histoire du pastel. Et De tout ce que j'ai pu comprendre de lui, il y avait dans ce personnage-là une quête, enfin un peu une quête d'absolu, que j'ai retrouvée d'ailleurs complètement par hasard dans l'image du dragon, qui est le logo de la maison. J'ai pas réussi encore à bien comprendre de quelle époque ce dragon date, mais j'ai retrouvé un dragon quasiment identique, simplement la tête est renversée, dans des traités d'alchimie. Et plusieurs personnes m'ont expliqué qu'effectivement, dans tous les symboles de ce dragon, que ce soit le dragon lui-même, les étoiles qui sont dans les ailes, la gerbe de blé, tout ça, c'est de l'ordre de la transformation de la matière, de l'expression de la créativité, tout ça. Alors, pour en revenir donc à l'aspect entre la chimie et l'art, c'est que le fils, lui, était médecin. Même s'il a travaillé avec son père sur le pastel et a développé un autre produit d'ailleurs qui s'appelait le pastel à l'eau, qui était une couleur en tube, son métier de base, c'était médecin. C'est le métier qui a permis de faire vivre sa famille, d'ailleurs. Donc, c'était un à côté. Le pastel, c'était un à côté, même si il était passionné par la couleur. Et c'est vrai que la couleur, elle est passionnante. Et moi, ce qui m'a fascinée, c'est de voir les coffrets. Surtout que dans le passé, les pastels étaient disposés dans du coton, dans des boîtes en bois avec du coton. Donc, il y avait quelque chose de magique, en fait. Voilà. Et puis, c'est cette couleur à l'état pur qu'on ne retrouve pas dans les autres techniques. Puisque dans la peinture à l'huile, il y a de l'huile. Dans l'acrylique, c'est de l'acrylique. Et donc, il n'y a aucun autre médium qui donne cette couleur à l'état pur.
Alors, la maison du pastel menait au 19e siècle, là, de front, plusieurs activités.
Oui.
Je parlais au début, en introduction, d'un lieu de mémoire.
Oui.
Mais elle avait aussi une activité d'abord de recherche. C'était comme un laboratoire, visiblement.
Oui. Ça s'appelait d'ailleurs les laboratoires de la gerbe. Ça s'appelait les pastels à la gerbe. La maison, en fait, qu'a reprise Henri Rocher, ne faisait pas que du pastel. J'ai encore dans mes vieux stocks, des stocks d'aquarelles, des stocks de fusains. C'était vraiment une maison qui était le rassemblement de plusieurs maisons d'ailleurs, qui faisait des fournitures pour artistes de manière générale. Et c'est vraiment Henri Rocher qui a choisi de se spécialiser dans le pastel, parce qu'il a eu un lien très particulier avec ce matériau.
C'est pas lui qui a rencontré un vieil artisan.
Et c'est lui, voilà.
Qui lui a.
Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il est arrivé dans l'histoire, c'est que l'artisan de l'époque cherchait à améliorer la qualité de ses pastels. Et donc, Henri Rocher est venu avec ses connaissances scientifiques et chimiques pour améliorer. Et il a beaucoup discuté, en fait, avec les artistes de l'époque pour savoir ce qu'ils attendaient du matériau. Et il a essayé de combler leur desiderata, en fait.
La maison avait aussi, alors c'était un personnage un peu exceptionnel, cet Henri Rocher.
Le père et le fils, tous les deux. Toutes les personnes en fait, à chaque génération, ça a été des êtres assez exceptionnels.
Il a aussi lancé une activité éditoriale ici à la maison du pastel.
Oui.
C'est quand même surprenant, c'était pas un simple fabricant, il y avait vraiment, j'ai l'impression, autour de cette fabrication d'un matériau qui se veut d'une excellente qualité, avec des pigments purs, tout ce que vous me racontez, il y a aussi la volonté d'accompagner peut-être les artistes,
oui.
Et d'avoir un jugement critique. Qu'est-ce qu'il faisait alors ?
Alors concrètement, c'est vrai qu'il recherchait l'excellence et il espérait faire du pastel le matériau privilégié pour les artistes. Et pour développer ce matériau, il avait lancé un petit journal qui s'appelait Les Cahiers de l'Artiste. Voilà. Donc il a lancé Les Cahiers de l'Artiste, qui sortait régulièrement, où il parlait non seulement du matériau, mais de comment le préserver, comment traiter le papier, comment faire l'encadrement, etc.
Est-ce que c'était pas qu'un argument de vente ? Est-ce que
c'était vraiment... Tous les deux, en fait, le père et le fils, c'est des gens qui étaient passionnés. Et pas seulement passionnés par la couleur, ils étaient passionnés par la littérature, ils étaient passionnés par la botanique. Moi, j'ai retrouvé des fiches, je suis pas sûre si c'est le père ou le fils, je pense que c'est plutôt le fils, voilà, qui avait des renseignements sur les plantes, sur la médecine, qui découpait en fait des articles de journaux et qui a créé des cercles littéraires, des cercles artistiques, etc. Donc c'était, de mon point de vue, c'était un personnage qui m'impressionne.
On a l'équivalent aujourd'hui dans cette recherche de mise au point de matériaux, de dialogue comme ça avec les artistes, de quelqu'un qui n'est pas artiste, ou Pierre-Edouard ?
Non, pas du tout. On a même un problème, je pense que beaucoup d'artistes ont un problème, c'est que tous les matériaux baissent, absolument tous. Les papiers, tous les matériaux ont de moins en moins de qualité et de moins en moins de possibilités. Et ça, c'est l'industrialisation des produits qui fait ça. Mais c'est un gros problème parce qu'il y a énormément de savoirs qui sont en train de disparaître.
Oui, effectivement, les papiers, on n'a pas l'équivalent. Alors, sur une autre base de matériaux, on n'a pas ce dialogue, j'allais dire.
Vous avez des dialogues, mais c'est très sommaire. Si, vous avez des dialogues, les marchands de matériaux savent ce qu'ils vendent. Mais si vous voulez, vous n'avez pas de recherche vraiment performante sur les techniques. Vous n'avez pas de... Non, moi je sais que j'ai toujours eu ce problème. Vous voulez réaliser quelque chose et vous ne savez pas comment le faire. Le problème, c'est qu'avant, il y avait quelqu'un qui pouvait vous dire, vous pouvez faire comme ça. Là, vous êtes obligé de tâtonner jusqu'à ce que vous trouviez vous-même un truc qui vous convient. Mais il n'y a pas d'aide technique prête qui est là, ça je pense. Hein.
Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que c'est... d'abord dans l'histoire même de la Maison du Pastel, il y a quelque chose d'unique par cette alchimie, alors dans tous les sens hein, du terme, mais on voit aussi que c'est particulièrement fragile, cette histoire de rencontre, ce résultat, cette qualité, la maison tient à quelques-uns, à ces allers-retours dont parlait Pierre-Édouard, entre le pastel, certains artistes, il y a une période de grands moments du pastel, et la Maison du Pastel a failli disparaître même.
Mais plusieurs fois en fait.
Plusieurs fois.
Plusieurs fois, déjà Rocher. Au moment où Henri Rocher a repris. C'est justement parce qu'elle était en difficulté.
Oui.
Après, il y a eu la Première Guerre mondiale. L'origine de la maison, c'est 1720. L'origine, elle s'est faite à Versailles. Donc, le premier atelier était situé à Versailles. Il a été déménagé, en fait, dans le Marais. Ça, je ne sais pas trop exactement à quelle époque. Ce que je sais, c'est que quand Henri Rocher reprend entre 1860 et 1870, c'est rue Grenier-Saint-Lazare, donc juste à côté. Et puis après, il déménage rue Rambuteau en 1912.
Où nous sommes aujourd'hui?
Voilà.
Ici, c'est 1912.
1912, voilà. C'est rue Rambuteau depuis 1912.
Avec des ateliers l'atelier était
d'ailleurs à l'époque ici.
Entre guillemets.
Non, en 1912, après. L'atelier était dans le bâtiment principal, au deuxième étage. Sur le bâtiment, voilà, qui donne sur la rue, en fait. La boutique d'aujourd'hui, en fait, c'était le garage à l'époque. Et quand ils ont déménagé les ateliers au milieu des années 20, ce qui était autrefois le garage est devenu la boutique. Voilà, là où on est aujourd'hui, c'est là depuis 1925 à peu près.
Un lieu qui est un peu magique, qui plairait peut-être, au graveur Éric Desmazières qui aime ses...
Ça n'a pas changé depuis. Donc c'est vrai qu'on est encore avec les meubles de l'époque, les tissus de l'époque, les boîtes de l'époque.
Les calligraphies de l'époque.
Tout à fait, ouais, magnifique d'ailleurs.
On a sous les yeux des sépias, des bistres, des gris roux, si je vois bien, des verts fauves, des verts orangés, des verts glauques de l'autre côté, des rouges phébus. C'est plein de poésie, tout ça. Hein.
Oui, tout à fait.
Dans toutes ces couleurs, Henri Rocher a établi près de 1650 nuances. Au moment où, disons, l'entreprise marchait...
La grande époque de la Maison du Pastel, ça a été... Initialement, fin 19e, début 20e, c'était là où ils sont passés d'environ 150 nuances dans les années 1860 à 1650 en 1937. Et d'ailleurs, ils présentent une collection des 1650 nuances à l'Expo internationale de Paris, où il obtient une médaille d'or en 1937. Et ces 1650 nuances ont existé jusque dans les années 1980. Et puis après ça, mes tantes commençaient à devenir âgées, donc elles ont de moins en moins fabriqué. Et donc, petit à petit, 2650 nuances, c'est retombé. Et quand j'ai repris il y a 11 ans, il restait quasiment plus rien, en fait. La plupart des tiroirs étaient vides. Et c'est petit à petit que j'ai ramené les couleurs. Mais je suis encore loin des 1650.
Mais vous êtes déjà aux alentours des 600.
Je suis près de 600. Mais je vais passer la barre des 600, là, en 2011.
Est-ce qu'il y a un marché suffisant pour maintenir ces recherches pour vous ? Pour cette production d'abord, et puis peut-être ces recherches.
C'est très difficile. Ce qui me maintient, c'est vraiment cette passion pour ce produit que je trouve magnifique. Mais concrètement, voilà, à 11 ans, la première année où j'ai vécu de l'activité, c'est l'année dernière. Et c'est encore complètement incertain, parce que comme toute fabrication artisanale, c'est très difficile à maintenir aujourd'hui, parce que le temps mis à fabriquer coûte très cher, et que du coup, ça se retrouve dans le coût du produit. Donc mes pastels sont 5 fois plus chers que des pastels fabriqués de manière industrielle.
Mais ils sont fabriqués à la main, les pigments viennent du monde entier.
Oui.
Comment vous faites pour justement avoir l'œil, j'allais dire, sur tous ces produits, pour maintenir le fait de pouvoir vous les procurer ?
Mais justement, c'est aussi un des challenges d'aujourd'hui, c'est que jusqu'à récemment, j'ai vécu sur mes stocks de pigments existants. Donc comme j'en avais encore pas mal et que j'en utilise pas tant que ça, j'ai pas eu trop de soucis côté pigments jusqu'à présent, mais j'entre depuis peut-être 2 ans dans une période où petit à petit mes stocks s'épuisent et donc je dois retrouver des nouveaux matériaux.
Vous savez d'où vos tantes les faisaient venir ?
Oui, mais certains n'existent plus. Et puis même dans les matériaux qu'elles utilisaient, il y avait déjà des pigments d'origine industrielle, donc des pigments synthétiques, dont les couleurs évoluent complètement avec le temps parce que c'est beaucoup plus dépendant de l'industrie automobile que d'autres choses. Donc toute la recherche consiste à essayer de refaire des nuances avec des nouveaux matériaux. Mais je veux dire, ça a toujours été le cas. Et ce qui a fait le développement des 1650 nuances, c'est justement parce que l'industrie a fourni de plus en plus de pigments différents. Donc c'est ça qui a permis l'augmentation du nombre de nuances jusqu'à 1650. Et puis voilà, au fur et à mesure que certains pigments ne sont plus autorisés, enfin dans le passé, il y avait des pigments avec du plomb, avec de l'arsenic, avec du mercure, mais il n'y a plus de plomb aujourd'hui. Les couleurs n'ont pas de plomb dedans.
Mais les anciens, ils ont du plomb.
Il y en a certains. J'ai découvert l'année dernière, justement, parce qu'il a fallu que je passe pour pouvoir vendre aux États-Unis, il a fallu que je fasse passer des tests au pastel. Ah oui. Et j'ai découvert qu'une des couleurs que je fabriquais avait un des pigments, en fait, avait encore du plomb.
Ah oui.
Heureusement, c'était qu'un seul.
Aujourd'hui, les plus grands pastellistes viennent s'approvisionner chez vous.
Pas forcément.
Pas forcément. Mais vos prédécesseurs ont toujours été à l'écoute des artistes,
tout
on l'a
dit, oui.
Pour améliorer ces pastels. J'imagine que c'est une tradition qui perdure, que vous avez un lien privilégié avec
oui.
Les artistes qui viennent s'approvisionner à la Maison du Pastel. Ils sont peut-être pas très nombreux, mais vous leur prêtez toujours une oreille attentive.
Il y a des gens qui sont pastellistes, qui font pas de peinture, qui sont des pastellistes, comme Sam Safran, comme Barbâtre, comme... Bah, ils ne viennent que ici.
Oui, c'est possible. Oui, des gens comme Sam Safran, c'est sûr.
Les pastellistes, oui, qui oui. Sont des pastellistes, si vous voulez, en général, ils utilisent celui-là. Il y a des peintres qui font du pastel en plus. Là, ils peuvent utiliser beaucoup d'autres pastels. Tous les pastellistes, moi je ne suis pas un pastelliste, mais les pastellistes que je connais vraiment travaillent avec ça. Et le cas le plus poussé, c'est Sam, qui a toujours travaillé avec ça depuis le début.
Mais lui, c'est vraiment, il a un rapport au pastel rocher qui est très très fort. Parce qu'il considère que sans ces pastels-là, il n'aurait pas réussi à faire ce qu'il a pu faire. Donc il y avait vraiment un lien très très fort, en particulier entre lui et mes grand-tantes.
Puis il a
donc pour lui,
jeune,
son œuvre n'aurait pas existé sans les pastels rochers. Et moi, de mon point de vue, la Maison du Pastel ne serait plus là aujourd'hui s'il n'avait pas été là comme client. Donc il y avait un lien très très fort et puis une amitié très très sincère entre lui et mes tantes aussi.
Et puis le renouveau du pastel dans les années 70-80, c'est quand même lui.
Oui.
C'est de lui que ça vient.
La liste est longue et prestigieuse là, des artistes qui ont fréquenté la Maison du Pastel.
Oui.
De Degas à Poliakov, pour faire très très court, mais... Vous avez des archives? Comment c'est?
Alors, j'ai des archives, j'ai pas retrouvé encore, ce qui veut pas dire qu'il y en a pas, parce que j'ai encore beaucoup d'archives que j'ai pas ouvertes, parce qu'en général, tout est mélangé. Mais j'ai pas d'archives d'avant 1900. J'ai beaucoup de courriers des années 30, donc j'ai des courriers d'artistes j'ai beaucoup de courriers de Vuillard, de Pierre-Xavier Roussel, dont certains sont très drôles d'ailleurs, parce que il y en a un en particulier de Pierre-Xavier Roussel où il s'excuse auprès d'Henri Rocher parce qu'il a, entre guillemets, brutalisé un peu les vendeurs parce qu'il avait absolument besoin de son produit. Et donc il écrit une lettre en s'excusant comme quoi il avait peut-être été un petit peu trop, c'est pas brusque, c'est un petit peu, je retrouve plus les mots. Donc j'ai surtout en fait des courriers de ces années-là. Et puis après, des courriers, effectivement, des années 60, 70, 80, avec Sam, Pierre Skira, Irving Patlin, qui est un artiste américain, qui continue à faire du pastel, absolument. Oui.
Ah oui, il lui fait énormément de pastel, c'est vrai.
Je ne connais pas trop les clients des années 50.
Moi non plus.
Je connais plus ceux des années 60, en fait, parce que pour beaucoup, ils sont encore en vie, donc je les vois encore.
Ouais.
Après, ceux des années 30, c'est parce que j'ai trouvé des courriers. Ceux d'avant, comme Degas, Redon, etc., c'est pareil.
Employait ceux-là ?
Alors, Redon, il les a utilisés, effectivement. Ouais. Et on a découvert ça avec mes parents parce qu'on a vu des boîtes de pastel rocher dans un musée à Villeneuve-les-Avignon.
Ah bon ?
Une femme qui s'appelle Mademoiselle Bacou, qui a hérité, en fait. C'est son père qui avait hérité des affaires de Redon. Et parmi ces affaires, il y avait plusieurs coffrets de pastel rocher.
Ah oui.
Alors que j'avais jamais vu son nom dans les archives de la maison. Donc voilà, ce qui m'a fait très plaisir, parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est magnifique. Et puis Degas, en fait, c'est pareil. J'entendais parler beaucoup du fait qu'il avait été client, etc. Mais j'ai rien trouvé, en fait, dans les archives.
Une boîte chez lui.
Il y a une boîte, voilà. On a retrouvé une boîte chez lui, qui appartient au musée d'Orsay, d'ailleurs.
Ouais.
que j'espérais désespérément voir depuis des années et qui a été exposé en fait à l'expo sur le pastel en 2008-2009. Et là, j'ai pu vérifier qu'effectivement, il y avait le dragon sur la boîte. Donc, c'était une boîte de pastel rocher. Ouais. Non, il y a quand même des artistes bien implantés qui ont utilisé ce matériau et qui ont fait des choses magnifiques avec. Donc, voilà. Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une amitié avec les artistes et une écoute de leurs demandes qui est là. Et j'hésite pas à fabriquer des couleurs sur mesure. Donc j'en fais en particulier pour Pierre Skira. J'ai fait un verre de cadmium parce que avec Patlin qui travaille aussi à l'huile, il utilisait un verre de cadmium à l'huile qu'il avait envie de pouvoir utiliser au pastel. Donc je lui ai fait
un nouveau ton.
Voilà, absolument. Donc ça, c'est typiquement une couleur qui n'est pas dans le nuancier de référence des 1650 nuances. Cette couleur n'existait pas dans le nuancier des années 30. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment c'est votre bébé, j'allais dire.
C'est l'un de mes bébés. Voilà. Le premier, en fait, la première couleur qui n'existait pas dans le nuancier de référence, c'était un bleu glacier. Une couleur sur laquelle je suis tombée complètement par hasard et par erreur en cherchant à faire une gamme qui s'appelle le vert bleu. Et je suis tombée, en fait, sur un autre vert bleu qui était plus lumineux que la couleur d'origine. Et comme je voulais garder la couleur d'origine, j'ai décidé de créer une nouvelle gamme. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième bébé.
C'est particulier, cet éclat des couleurs des pastels rochers, Pierre-Edouard ? Ah oui,
bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais c'est particulier. Vous ne le retrouvez pas ailleurs.
Qu'est-ce que c'est, ces trois petits ronds-là ?
C'est rock, en fait. Le poinçon, c'est un poinçon que je mets sur chaque pastel, qui est les trois premières lettres de rocher.
Qui identifie
les pastels.
Les vrais pastels rochers.
Voilà. Donc, c'est pas AOC, c'est rock. Et ce qui, pour expliquer, en fait, ce qui en fait la différence, puisque vous vous demandiez à Pierre-Edouard ce qui fait la luminosité, c'est non seulement la composition, mais c'est aussi le fait que je les mets en forme à la main. Parce que le fait de les travailler à la main, j'arrive à travailler des textures qui sont pâteuses, que les machines, en fait, ne peuvent pas traiter. Mais c'est de pouvoir travailler ces textures qui me permet de mettre une quantité de pigments dans les pastels qui est bien supérieure aux autres pastels. En pourcentage, il y a plus de couleurs que dans les autres. Voilà. C'est une des raisons. Et la composition est une autre raison. Le mélange des pigments aussi, c'est tout un savoir-faire qui permet d'avoir cette luminosité.
Est-ce que vous percevez des attentes particulières des pastellistes d'aujourd'hui ?
Alors, les attentes que j'entends aujourd'hui, c'est d'avoir, entre autres, des pastels, surtout pour les portraitistes, d'avoir des pastels plus durs, ce qui existait dans le passé, voilà. Parce que dans
mais
le
ils
passé...
sont déjà drôlement durs.
Ah, mais ceux-là, dans le passé, il y avait trois types de pastels. Il y avait des durs, des demi-durs et des tendres. Ceux que je fabrique, moi, c'est les pastels tendres. Qui sont effectivement déjà, j'ai pas envie de dire durs, mais qui sont rigides dans le sens où ils vont pas exploser. Enfin,
ils
s'effondrent pas justement.
Voilà, ils s'effondrent pas.
Et c'est une de leurs grosses qualités, c'est qu'ils s'effondrent pas et qu'on.
Ils s'écrasent pas.
Qu'on peut mettre de la force dans l'application sans que ça devienne, sans que ça s'effondre. Mais il existait en même temps, ça reste un pastel tendre dans le sens où la marque, le trait qu'on va faire avec, est pas fin.
Ah oui,
et pour les portraitistes, en fait, ils ont besoin de pastels avec lesquels ils puissent faire des détails.
Ah oui.
Et ça, c'était fourni par les demi-durs et les durs. Et j'ai plusieurs artistes qui adorent, parce qu'il me reste des stocks de demi-durs. Donc, il y a certains artistes à qui je les ai proposés et qui adorent ce produit. Mais pour l'instant, je ne le fabrique
vous
pas.
Vous en avez ?
J'en ai quelques bâtons là-haut.
Je peux les regarder ?
Oui.
Et ils sont plus petits ?
Alors, c'est dans une boîte en bois, évidemment. Avec le fameux dragon. Ils sont plus petits, jolis. Ils sont beaux.
D'ailleurs, qui datent d'avant Henri Rocher. Ils sont encore
à
la marque de Macle.
Ça, c'est les pastels tels qu'on les voit sur les... Vous savez, les lyotards, il y en a un où on le voit avec un pastel dans la main. Il est comme ça.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Il a cette taille-là.
Oui.
Il n'a pas la taille des...
Des autres que vous nous montrez.
Ils sont plus fins et ils sont légèrement effilés. Ouais.
Voilà. Et ils sont taillés, en plus.
Voilà.
Ils sont taillés, oui. Ouais. Et ça, vous allez peut-être vous mettre à en faire.
Ça fait partie des
ça
projets.
Ça serait bien. Parce que ça, on voit ça absolument nulle part.
Non, parce que ça n'existe plus.
Ça n'existe plus.
Ça n'existe
depuis
plus.
Depuis très longtemps.
Non.
Ouais.
Donc, il m'en reste encore quelques vieux stocks.
Et ils sont légèrement plus secs.
Non, je ne pense pas qu'ils soient plus secs. Ils sont plus durs, surtout. Mais si vous voulez en essayer...
Le trait est plus...
Plus fin, du coup. Donc, on arrive à faire avec ça, à faire des détails qu'on ne peut pas faire avec les tendres.
Bien sûr.
Leur rôle était différent, en fait.
Ouais, ouais.
Et dans le passé, il y avait ces trois types de pastels.
Pour terminer, c'est une question qui s'adresse à vous deux. Hein. Comment voyez-vous l'art du pastel à l'avenir ?
Mais je vous dis, le pastel, de toute manière, il correspond à quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on ne peut pas le remplacer, puisque c'est le pastel qui fait ce genre de choses. Donc, c'est unique, c'est spécial, quoi. Donc, si un artiste a besoin de ce genre de sonorité, il sait que c'est au pastel et pas avec autre chose qu'il l'aura. Donc, s'il a besoin d'autre chose, évidemment, il fera avec autre chose, mais... C'est un art en soi, cette luminosité-là, cette manière de dessiner. Puis il y a quelque chose aussi de particulier dans le pastel, c'est que si vous voulez, toute peinture, quoi qu'on fasse, une peinture couvre toujours. Elle couvre le support. Alors que le pastel ne le couvre jamais. Le pastel laisse toujours respirer le support. C'est-à-dire qu'il y a toujours un interstice, il y a toujours des interstices, ça reste comme un dessin. Alors qu'une peinture couvre. Donc c'est déjà très différent. Donc il y aura toujours des gens qui auront besoin de ce langage-là, et puis d'autres pas, voilà.
Isabelle Rocher.
Moi, je ne peux pas prédire l'avenir. Ce que j'espère, c'est qu'effectivement, il va y avoir des gens comme Degas à son époque, ou comme Somme-Safran, qui vont redonner de nouveau au pastel toutes ces lettres de noblesse. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt une génération de personnes qui ont entre 60 et 70 ans, qui l'utilisent le plus, même s'il y a beaucoup d'amateurs, j'ai envie de dire, qui sont clients aussi ici. Voilà, parmi les professionnels, j'attends la nouvelle génération, en fait, de vrais pastellistes.
Oui, elle n'est pas encore là.
Même si, voilà, j'ai quelques clients qui, effectivement, on sent qu'ils ont envie d'exploiter le matériau et qu'ils ont envie d'en faire quelque chose, ça en est encore plus à la naissance. Donc, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, il va y avoir de nouveau un renouveau de cette pratique.
Oui, oui.
On reste sur ce souhait, alors.
Oui.
Mais en tout cas, merci de nous avoir reçus.
Je vous en prie.
Pierre-Edouard, merci aussi de m'avoir amené jusqu'ici, parce que c'est en découvrant des boîtes de pastel rocher dans votre atelier que j'ai découvert leur existence.